Bonjour, bienvenue à un autre épisode de C'est au balado. Donc aujourd'hui, on reçoit Jeanne qui est infirmière et clinicienne et qui pratique en santé sexuelle. Donc allô Jeanne.
Salut, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être ici.
Ben, ça fait plaisir. Donc encore une fois là, on est l'équipe de Sherbrooke derrière le micro. Donc Angèle,
Tommy
et Nad. All right everybody, it's a beautiful night to save lives.
Donc, on va commencer tout de suite. Jeanne, est-ce que tu voudrais nous parler un peu là, de toi, de ton parcours universitaire jusqu'à, mettons, du cégep jusqu'à l'université?
Oui, ben en fait, moi, c'est ça, en sortant du secondaire, j'ai tout de suite été en soins infirmiers. Fait que j'ai été chanceuse, j'ai tombé vraiment dans quelque chose qui m'intéressait dès le départ. J'ai fait ma technique à Sherbrooke. Après ça, j'ai enchaîné avec directement le bac à l'Université de Sherbrooke aussi. Là. Puis c'est ça, j'ai commencé après ça à travailler plus en pédiatrie pendant ce temps-là, pendant mon bac, au CHU. C'était vraiment un milieu que j'aimais beaucoup, là, la clientèle, puis tout ça. J'ai fait aussi du centre jeunesse à Val-du-Lac. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les soins en milieu de centre jeunesse, là.
Non, pas vraiment.
Tu peux nous en parler, si tu veux.
Oui, bien c'est ça. Ça, c'est vraiment un beau milieu aussi. Puis c'est un peu là que j'ai eu mon introduction à la santé sexuelle parce que je faisais beaucoup de contraception, DSS, des choses comme ça. Fait que ça a été un peu mon introduction à cet univers-là. Puis tu sais, c'est sûr que ça peut être un peu intimidant parce qu'on se dit comme, ah, tu sais, autant que c'est un centre jeunesse que c'est un centre de détention, Val-du-Lac. Fait que tu sais, t'arrives là comme petite fille, mettons, de à peine 20 ans, puis c'est un peu stressant, mais au final, ça avait vraiment été une belle expérience. Fait que j'ai passé un été complet à temps plein, puis après ça, je suis retournée en pédiatrie pour finir mon bac.
OK.
Après le bac, je suis partie en agence. Fait que j'ai travaillé en Gaspésie avec l'agence Nomade, puis j'ai travaillé en obstétrique là-bas. Fait qu'encore là, je restais un peu dans le monde avec les bébés, les mamans. Ça a toujours été vraiment des clientèles qui m'intéressent beaucoup. Puis c'est ça, j'ai fait des voyages à travers de tout ça, j'ai rencontré un peu des sexologues aussi pendant mon parcours justement dans mes voyages, puis j'ai échangé avec eux, puis tout ça, puis j'ai remarqué que vraiment tout cet univers-là de santé sexuelle, ça m'intéressait beaucoup, mais encore là, tu sais, c'est difficile d'aller chercher des postes en tant qu'infirmière dans le réseau, dans la santé sexuelle, tu sais, ça prend, mettons, 10 ans d'ancienneté quasiment avant d'avoir un poste à ce niveau-là, fait que là, tu sais, j'ai dû comme tout réfléchir à comment j'allais pouvoir intégrer ça dans ma pratique. Fait que j'ai décidé de faire le certificat en santé sexuelle.
OK.
Puis à partir de là, je suis en train de développer plus une pratique privée pour aller explorer un peu d'autres sphères, plus comme intervenante et infirmière en santé sexuelle.
OK. Puis si on repart un peu là, du début, là, tu m'as dit la première fois que tu as commencé à pratiquer, c'était comme en pédiatrie.
Ouais.
Je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute est familier avec comme les rôles de l'infirmière en pédiatrie, à Val-du-Lac, en obstétrique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui, bien, dans le fond, en centre hospitalier, c'est vraiment différent que justement en clinique ou tu sais, en centre jeunesse. Puis tout ça, là, tu sais, on va avoir plus un rôle d'évaluation, gérer les médicaments, puis tout ça. Tandis que quand on va à l'extérieur des centres hospitaliers, c'est là qu'on peut avoir un petit peu plus d'autonomie parce qu'il n'y a pas toujours justement de médecins sur place. Fait que ça va être vraiment nous le premier accès. Autant que je faisais des dépistages, des TSS, que des suivis pour la contraception, puis tout ça, mais qu'aussi, on était comme la première ligne. Fait que quand il arrivait quelque chose, c'est nous qui faisions la première évaluation, puis après ça, on pouvait regarder si on pouvait être autonome dans notre gestion, faire un plan de soins, puis tout ça, ou si on devait aller référer à un médecin, dans le fond. Fait que c'est vraiment deux rôles qui sont différents, mais qui sont autant le fun un que l'autre. T'sais, chacun, je pense, a ses beaux côtés puis ses côtés un petit peu plus difficiles. Mais au bout de la ligne, c'est deux choses qui sont super intéressantes aussi. Là.
Donc, tu nous avais parlé de ton certificat que tu fais présentement. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui?
C'est un petit peu compliqué, justement, parce que là, je travaille plus en agence non plus. Je travaille en pharmacie. Fait que je fais comme de la santé voyage deux jours semaine avec des soins de première ligne. Puis au travers de tout ça, il faut que j'essaye de trouver du temps pour faire mes cours. Là. Fait que mon certificat, il est à temps partiel, mais j'ai quand même 3 cours à 3 crédits. Fait que ça fait quand même beaucoup au final de tout naviguer ça. Puis j'essaie vraiment de m'impliquer à 100% dans mon certificat, vu que justement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que je veux pas juste le faire pour avoir le papier au final. T'sais. Fait que j'essaie de faire toutes mes lectures, toutes mes affaires. Fait que jongler un peu selon mes projets. Puis là, en plus, avec ma pratique privée que je développe sur le side, c'est sûr que ça fait beaucoup à gérer, mais c'est ça. En même temps, ça me laisse une belle flexibilité d'arranger un peu mon horaire comme je veux, d'avoir juste 2 jours fixes de travail plus traditionnels, mettons, que j'ai pas le choix d'aller à la pharmacie, mettons, le mardi et jeudi. Puis au final, quand j'ai besoin de faire un petit peu plus d'heures pour subvenir à mes besoins, bien, je peux faire de la télémédecine aussi sur une plateforme que je fais en ligne. Là.
Super. J'imagine qu'au fil de tes expériences, tu as vu quand même beaucoup d'équipes différentes, que ce soit dans centre jeunesse ou très différents des centres hospitaliers aussi. Ça s'est passé comment collaborer avec ces différents médecins-là ou les autres corps de métier? Ça se passe comment, cette collaboration-là, en général?
Ça va bien souvent. Surtout en centre jeunesse, ce qui est le fun, c'est qu'on a plus de proximité. Tu sais, comme les médecins ne sont pas là souvent, mais quand ils sont là, on travaille vraiment ensemble. Tu sais, on est dans les mêmes bureaux. On est vraiment en bonne collaboration. Tu sais, on ne sent pas trop qu'il y a une hiérarchie entre les différents rôles. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, d'avoir ce rôle un petit peu plus de proximité-là. À l'hôpital, ça va vraiment dépendre des départements, des médecins, puis tout ça. Des fois, ça se passe super bien la majorité du temps, mais il y a des fois qu'il y a encore ce sentiment-là de hiérarchie, qu'on n'est pas tous égaux par rapport à nos rôles. Là. Fait que ça, c'est le fun quand on est capable justement d'aller chercher une belle collaboration, une bonne communication, puis de voir aussi que, tu sais, nos évaluations, puis qu'est-ce qu'on apporte comme point, c'est écouté, puis c'est considéré dans toute la démarche de soins. Là. Fait que je pense que c'est ça, le fait d'avoir une bonne communication, puis une ouverture autant vers le médecin que les médecins envers nous, c'est une belle façon d'avoir des meilleurs soins pour le patient aussi, là.
Oui, puis c'est important, je pense, parce que les infirmières, vous passez beaucoup de temps avec les patients, fait que vous apprenez à les connaître, puis des fois, vous remarquez des choses que les médecins, on ne pourra pas voir parce qu'on n'est juste pas là, tu sais. Mm-hmm. C'est important.
L'union fait la force, comme on dit.
Oui, exact.
OK. J'imagine que tu as vu beaucoup de patients au cours de ta carrière, puis on se demandait un peu c'était quel enjeu que tu vois le plus souvent auprès de tes patients.
Encore là, ça dépend vraiment des personnes, mais en général, il n'y a pas beaucoup d'éducation par rapport à la sexualité. Mmh. Tu sais, même si on a l'impression que, tu sais, on est dans une société où tout est hyper sexualisé dans les médias, qu'il y a beaucoup de représentations de tout ça, mais d'aller parler de la vulnérabilité puis de qu'est-ce qui va un petit peu moins bien, ben c'est encore tabou, tu sais. Fait que ça, je le remarque vraiment que c'est pertinent d'avoir des espaces comme ça où que les gens peuvent vraiment venir s'exprimer sur ces problèmes-là puis de parler de qu'est-ce qui les tracasse, qu'est-ce qu'ils trouvent un petit peu plus stressant. Parce que, tu sais, oui, en parler avec ses amis, ça peut être bien puis tout ça, mais encore là, il y a encore un filtre, tu sais, qu'on n'ose pas dire si ça va pas au niveau de cette sphère-là de vie, parce qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous a une sexualité super extravagante puis que, justement, tout le monde est bien confiant dans leur sexualité puis qu'ils osent s'exprimer puis tout ça, alors que la réalité, c'est pas nécessairement ça, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un tabou qui persiste malgré le fait que notre société est vraiment comme en explosion par rapport à la représentation de la sexualité, là, surtout dans les médias, comme je disais. Fait que c'est ça, il y a comme une petite controverse à ce niveau-là que les deux côtés existent.
Oui, c'est vraiment intéressant. Puis justement, comment est-ce que tu as-tu des conseils de comment aborder la sexualité pour rendre le patient à l'aise ou les patients à l'aise, que ce soit comme l'aborder ou juste à l'examen physique?
Oui, bien en fait, c'est juste le fait de tendre la perche. T'sais, c'est sûr que même en tant que professionnel, on n'est pas tous super à l'aise de parler de ça, puis c'est correct, t'sais, fait que juste de tendre la perche puis d'être la personne qui va faire le move, t'sais, pour aller vers le patient, parce que juste le fait de devoir l'aborder d'eux-mêmes, t'sais, peut-être qu'ils ont des soucis par rapport à ça, mais qu'ils n'osent pas les dire, fait que juste d'aller, t'sais, poser une question puis de respecter aussi le niveau d'aisance du patient par rapport à cette sphère-là de vie, parce qu'encore là, c'est pas tout le monde qui sont super à l'aise d'aller dans les détails. Mm-hmm. Fait que c'est ça, le fait d'aller le proposer, puis après ça, de respecter le niveau auquel il veut en parler. Justement, là, pas trop aller pousser pour une personne, mettons, qui n'est pas super à l'aise aussi, si ce n'est pas nécessaire. Par rapport à l'examen physique, bien encore là, c'est sûr, respecter l'intimité du patient le plus possible. Fait que, tu sais, éviter de découvrir la personne, mettons, tout d'un coup, garder certaines régions plus cachées, mettre une serviette, y aller progressivement. Sinon, demander à la personne d'enlever certaines parties de vêtements, à place de juste monter la jaquette, bien, hop, pouvez-vous remonter un peu votre jaquette pour qu'on aille, mettons, ou la cuisse, tu sais. Fait qu'il y aller progressivement, doucement, puis respecter vraiment la personne là-dedans. Là.
OK. Oui, mais super. C'est des bons conseils.
Je sais pas si ça répond bien à la question, ouais. Là, mais c'est ça. Comme je dis, c'est qu'il y a souvent une peur de l'aborder par le patient. Fait que juste le fait de nous-mêmes essayer de poser une question là-dessus, ça peut juste débloquer la personne aussi, là. Puis c'est ça. Je pense de prendre conscience aussi de son propre niveau d'aisance par rapport à la sexualité. Tu sais, de faire une petite introspection puis de se demander, moi, comment je vois ça avant d'aller en parler avec le patient, ça peut être aidant aussi.
Oui, je pense que si on est à l'aise comme clinicien puis qu'on pose une question à notre patient en étant à l'aise ou en ayant l'air à l'aise, ça va aider notre patient à se mettre comme en confiance puis de briser le tabou, justement. Si on pose la question puis qu'on a l'air super gêné, mal à l'aise, mais c'est sûr que le patient, il est plus gêné, lui aussi, nous en parler.
C'est ça. Puis, tu sais, juste le fait encore là de se de prendre du temps seul pour penser à cette sphère-là de notre vie, ça va être plus facile après ça de l'aborder, tu sais. Comme, ça se peut que ça soit pas tout le monde qui soit à l'aise d'en parler avec leurs patients, mais tu sais, justement, d'aller voir pourquoi je suis pas à l'aise d'en parler, c'est quoi les sujets qui me causent le plus d'inconfort. Comme ça, quand on le sait nous-mêmes, ben après ça, c'est plus facile de passer par-dessus ça puis d'aller faire du travail pour devenir plus à l'aise. Parce que, tu sais, la sexualité, c'est une sphère de la santé du patient, autant que la maladie en tant que telle, autant que l'entourage social. Puis tout ça, tu sais, on a tendance souvent à laisser ça un peu de côté dans le bien-être général de la personne, mais comme, au final, la sexualité, c'est pas juste les relations sexuelles, tu sais, ça peut inclure plein de choses, l'image corporelle, les relations en général. Fait que, tu sais, c'est une belle sphère à ajouter, je pense, à son examen clinique, là.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, merci pour les conseils.
Ouais, c'est ça. Ouais. Comme tu en as parlé un petit peu, la sexualité, ça peut être relié à des enjeux de relation, tu sais, dans une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Comment tu peux aborder les enjeux relationnels qui impactent la sexualité, que ce soit dans une relation toxique, quelque chose comme ça, par exemple?
Ben, tu sais, juste de commencer plus large, encore là, tu sais, demander à la personne comment ça va, de voir si elle veut s'ouvrir aussi à nous, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement parce que nous, on veut ouvrir ce dialogue-là que cette personne-là va être prête non plus. Fait que, tu sais, faut jamais forcer un dévoilement, par exemple, dans un contexte d'agression sexuelle où on peut, suspecter que la femme ou l'homme est victime de violence conjugale, par exemple. Tu sais, on peut pas forcer ce dévoilement-là. Fait que, juste de montrer qu'on est un espace sécurisant pour le patient, puis qu'on peut être là s'ils ont envie de se confier, tu sais. Puis juste le fait qu'ils se sentent plus à l'aise, peut-être qu'après ça, justement, ils vont aller en parler au préposé, mettons, ou à l'infirmière, mais juste de rendre ça sécurisant puis que la personne sache qu'elle peut parler de ces choses-là ici, tu sais, sans nécessairement aller forcer le sujet si la personne n'est pas à l'aise, parce que ça peut juste créer, au final, plus de trauma si on essaye vraiment d'aller pousser puis que la personne n'est pas rendue là dans son cheminement. Fait que même si on veut bien faire des fois puis aider puis dire comme « Hey, je te vois, tu sais, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas », si la personne n'est pas rendue là puis elle n'est pas prête à faire le saut, ben ça va quand même juste l'aider de savoir qu'elle est soutenue puis qu'elle n'est pas toute seule dans cette situation-là.
OK. Puis une fois qu'il y a comme eu un dévoilement, comment on le reçoit pour comme... Je sais pas comment le dire, mais comment on reçoit un dévoilement, dans le fond?
Encore là, c'est super important de rester calme puis d'encourager la personne, de dire que c'est bien qu'elle ait réussi à en parler, qu'elle a été courageuse de faire ça, la personne aussi, parce que c'est très difficile pour ces personnes-là souvent de sortir de ces situations-là puis d'aller demander de l'aide, parce que, tu sais, tout ce qui est violence conjugale, justement, il y a une partie d'amour encore, tu sais, même si cette personne-là a vu des choses très difficiles, elle va être attachée à son ou sa partenaire quand même. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense vraiment d'aller dire que la personne a été courageuse, qu'on est contente qu'elle ait réussi de nous en parler. Puis après ça, bien, on explique c'est quoi les ressources disponibles sans encore là forcer la personne à aller faire une dénonciation à la justice ou quoi que ce soit. Parce que justement, ça se peut qu'elle se referme encore plus après ça puis qu'elle n'ait plus envie de nous en parler. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de juste dire qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je peux t'accompagner en tant que professionnel dans ces démarches-là si jamais tu es rendu là puis tout ça, sans mettre de pression encore là, mais dire qu'on est là.
OK.
J'imagine aussi juste leur dire qu'on est là pour eux. C'est super important. Puis de les remercier un peu de s'avoir ouvert à nous. Parce que c'est sûr, c'est comme une partie vraiment vulnérable. Fait que, ouais, c'est pas mal ça.
Exact. Puis c'est de dire c'est quoi les ressources disponibles pour eux aussi. Parce que tu sais, encore là, ils ont réussi à aller comme un peu chercher de l'aide. Fait que de leur dire qu'il existe des organismes, il existe des choses qu'on peut faire pour aider cette personne-là à sortir de cette situation-là quand elle va être prête, tu sais, l'aider à faire un plan de sortie, lui dire justement les organismes qu'elle peut aller rechercher, puis tout ça.
Ouais, je pense que c'est vraiment important de s'y connaître, de connaître son milieu, mettons aussi en Estrie, de connaître c'est quoi les ressources ici, c'est pas les mêmes qu'ailleurs non plus. Puis aussi au niveau de la formation médicale, tout ça, il y a quand même un petit tabou au niveau de la sexualité. On en voit un peu, on voit aussi qu'il y a un changement par rapport à ça, puis qu'on est davantage formé, par exemple, contrairement avant, tu sais, ouvert aux différents types de sexualité, puis tout ça. Mais je pense que c'est vraiment important de s'y connaître, là.
Ouais.
Est-ce que ton travail a un peu changé ta perspective sur les relations ou la sexualité en général?
Ben encore là, je dirais un peu dans le même sens que tantôt, que tu sais, des fois on a l'impression que tout le monde est super bien dans sa sexualité puis dans son couple puis tout ça, alors que tu sais, toute personne va avoir des petites difficultés dans sa vie, autant au niveau sexuel que relationnel, puis c'est normal, tu sais, ça veut pas dire qu'il y a un problème avec nous, qu'on est anormal, puis tu sais, même les intervenants en sexualité, tu sais, ils vont avoir leur propre enjeu. On a tendance souvent à venir idéaliser beaucoup les autres, puis venir se comparer, puis tout ça, alors qu'on voit pas toute la sphère de qu'est-ce qui se passe autour de ça, puis qu'est-ce qui va un petit peu moins bien aussi. Fait que c'est ça, je pense que c'est venu un peu relativiser que c'est tout le monde qui a envie des difficultés à différents niveaux, justement. T'sais, oui, il y en a qui vont vraiment développer des dysfonctions puis que ça va leur causer beaucoup de souffrance. Il y en a que ça va être plus situationnel, mais c'est quelque chose qui vient vraiment toucher tout le monde. T'sais, même des personnes qui n'ont pas de sexualité, qui sont asexuelles, ben eux aussi vont avoir des problèmes quand même dans leur estime de soi, dans leur relation autour d'eux, puis tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est large puis qui va toucher beaucoup plus que les relations sexuelles en tant que telles.
Très bien. Moi, j'ai une autre question. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta page Instagram Sexe aux soins.
Oui.
Parce que ça pique beaucoup ma curiosité. Comme, j'aime vraiment ça, le contenu que tu fais. Je veux savoir de où ça vient, l'idée, puis comme, comment est-ce que tu as monté tout ça, là?
Merci, c'est gentil, premièrement. c'est comme, encore là, je cherchais vraiment comment j'allais pouvoir impliquer ça dans ma pratique. Puis moi, j'avais vraiment envie d'aller chercher toutes les sphères un peu moins médicales, justement, vu que j'ai été super dans l'environnement médical, l'hôpital, ma formation de base aussi, qui est comme infirmière. Ça a souvent été autour des pathos, de la bio, des choses comme ça, alors que moi, je me suis toujours intéressée au côté plus social, relationnel, culturel, puis tout ça. Fait que là, je me demandais, OK, mais tu sais, en milieu de soins, on n'a pas tant de jeux pour aller vraiment explorer à ce niveau-là. Fait que là, j'ai regardé un peu autour de moi, justement, j'ai discuté avec des sexologues, puis je leur ai demandé, tu sais, eux, ça ressemblait à quoi concrètement leur pratique. Fait que c'est ça, ça a été beaucoup, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup contacté plusieurs personnes dans le milieu pour voir comment je pouvais développer une pratique, parce que en tant qu'infirmière non plus, c'est pas quelque chose qui est concret, puis c'est pas un travail, tu sais, c'est pas une spécialisation reconnue par l'OIQ non plus. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a pas grand modèle par rapport à ce que je veux faire. Fait que à partir de tous les témoignages que j'ai entendus de personnes qui se trouvaient dans le milieu de la sexologie ou de la santé sexuelle, je me suis juste dit comme, ah ben, je pourrais justement me développer une pratique privée selon mes actes possibles comme infirmière, puis les actes possibles que je peux faire comme intervenante en santé sexuelle aussi. Puis, ben pour ma clientèle cible, en fait, c'est vraiment par les réseaux sociaux que je peux aller les chercher pour vraiment avoir des clients, là. Moi, en fait, c'est que je veux faire des accompagnements, surtout par rapport à la santé sexuelle puis au cycle menstruel. Fait que c'est ça, le moyen d'aller rejoindre ces personnes-là, ça va être vraiment par les réseaux sociaux. Fait que j'aime ça, en plus, faire des petites vidéos informatives sur le sujet. Tu sais, ça rentre vraiment plus dans l'axe de promotion de la santé qu'on voit un peu dans nos carrières, mais que c'est pas tout le monde qui va aller exploiter ça, justement, dans des milieux plus classiques, là, comme les hôpitaux. Fait que je fais ça. Je fais un peu de promotion de la santé sur des sujets qui m'intéressent beaucoup aussi. Fait que, tu sais, je suis vraiment passionnée par tous les sujets que je vais venir créer, autant au niveau de mes publications que mes vidéos puis de mes accompagnements. Fait que c'est pour ça que je garde ma motivation à ce niveau-là. Puis éventuellement aussi, je fais des ateliers éducatifs dans les écoles puis dans les organismes. Ça, c'est une autre partie que j'aimerais développer parce que j'aime vraiment ça, faire des petites conférences, des ateliers puis tout ça dans ces thèmes-là, là.
Fait que ça, c'est un de tes objectifs, mettons, d'aller faire des conférences ou t'en as déjà fait?
J'en fais une coupe.
OK.
Ouais, ben là, j'en ai fait plus en ligne, des webinaires, mettons, sur le cycle menstruel. Puis je vais commencer aussi au printemps à aller donner des ateliers avec l'organisme Nouveau Cadre. Fait que ça, c'est un organisme qui va dans les écoles secondaires et primaires, plus à Montréal pour le moment, mais pour donner de l'éducation à la sexualité selon le cadre du ministère. Fait que, tu sais, c'est vraiment basé sur qu'est-ce qui a été élaboré par le ministère pour les critères obligatoires dans les écoles, mais ça va être donné par des personnes qui sont plus à l'aise puis qui sont qualifiées, justement, versus quand c'est les profs qui doivent aller donner ce contenu-là, mais qu'au final, c'est pas des choses avec lesquelles ils sont super à l'aise de parler. Fait que c'est ça. Ça vient vraiment rejoindre. Encore là, ils me prennent comme travailleur autonome pour que éventuellement peut-être qu'on puisse élargir ça un peu plus large au Québec puis tout ça, là.
Ah, mais c'est bien qu'ils mettent des personnes qui ont une expertise là-dedans, parce que moi, je me rappelle en secondaire 2, je sais pas si vous avez vécu ça, là, mais de mettre le condom sur la banane, là, avec le prof de sciences qui explique, puis comme, ben, c'est sûr que les profs sont pas tout à l'aise, puis ils sont pas nécessairement formés pour ça, je pense.
C'est ça. Fait que c'est bien. Puis, tu sais, nous, on aime ça, puis on rend ça aussi sous forme ludique, là. Eux autres, ils passent beaucoup par les courts-métrages. Fait qu'ils font des courts-métrages avec des jeunes dedans pour que ça soit plus représentatif de la réalité de ces personnes-là qui vont les écouter, tu sais, les courts-métrages. Puis après ça, les ateliers, on les fait vraiment sous forme ludique, qu'on va inclure du jeu, qu'on va inclure des... C'est ça, là, des trucs interactifs pour faire participer la classe beaucoup, puis que ça soit pas vu comme un sujet qui est lourd, tu sais. C'est surtout ça, parce que autant qu'on aime ça en parler, que c'est un peu tabou, puis justement, on n'ose pas trop participer puis parler de notre expérience personnelle, fait que de mettre ça sous forme plus agréable, ben ça rend ça plus accessible, puis les jeunes ont envie plus de participer puis de bien comprendre le message derrière chaque atelier, là.
OK. Puis j'ai une autre question par rapport au rôle d'infirmière. Là. Tu m'as parlé que tu as travaillé pour une agence.
Ouais.
Puis j'aimerais aussi savoir c'est quoi la différence entre travailler, mettons, pour une agence puis travailler pour un hôpital.
L'hôpital, c'est que tu vas être vraiment employé de l'hôpital. Fait que, tu sais, moi, par exemple, je travaillais au CHU. J'ai commencé là comme préposée pendant mes études en soins à la technique. Puis j'ai évolué jusqu'à devenir infirmière. Tu sais, j'ai passé par externe, un peu comme vous. Puis après ça, c'est CEPI. Puis après ça, c'est infirmière. T'sais, fait que, tu sais, j'étais vraiment pour l'hôpital. J'étais leur employée. Je travaillais juste soit à Fleurimont ou à l'Hôtel Dieu. Puis après ça, quand j'ai décidé d'aller en agence, c'était pour pouvoir faire plusieurs centres. Fait qu'aller chercher de l'expérience ailleurs. Moi, je voulais aussi aller travailler un petit peu plus en région éloignée parce que j'ai toujours aimé ça, voyager, puis tout ça. Fait que je me suis dit, ah, ben c'est une belle façon d'aller combiner les deux. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je suis allée en Gaspésie. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait aussi un micro-programme en santé internationale avec l'UDS aussi. Puis ça, c'était le fun aussi, justement, parce que c'était avec des médecins, des résidents, des infirmières. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, la santé internationale, je trouve que c'est vraiment un beau programme, le micro-programme, parce que c'est vraiment en collaboration avec d'autres professionnels. Fait qu'en tout cas, une petite recommandation comme ça, là. Mais ouais, fait qu'en gros, si on revient à ta question, l'agence, la différence, c'est que t'es pas employé de l'hôpital, mais de l'agence. Fait que tu peux te promener un peu partout au Québec, faire des places selon des contrats. Tu dis, par exemple, « Ah, ben moi, je veux partir un 3 mois dans telle ville. » Fait que là, après ça, tu t'en vas là, puis c'est vraiment l'agence qui te prend en charge, même si tu travailles dans un hôpital.
OK. Puis, y a-t-il des différences entre travailler en région puis en centre tertiaire, mettons, pour une infirmière? Parce que je sais que pour les médecins, il y a comme beaucoup une grosse différence au niveau comme du champ de pratique, puis qu'est-ce que tu peux faire, puis qu'est-ce que les spécialistes font comme omnipraticiens?
Ouais. Bien, en tant qu'infirmière aussi, il y a beaucoup de différences, surtout dans les protocoles. Tu sais, ici, dans les grandes villes, on a souvent des hôpitaux qui sont universitaires. Fait que, tu sais, on a beaucoup de protocoles, beaucoup de professionnels qui sont présents sur les unités aussi en général. Tu sais, il y a beaucoup de monde, là. Tandis qu'en région, on est plus tout seul. Tu sais, des fois, les médecins ne sont pas sur place non plus parce que c'est plus des gardes, mettons. Fait que, tu sais, le jour, oui, il va y avoir des médecins sur place, mais moi, mettons qu'il était en obstétrique le soir, les médecins n'étaient pas là. Tu sais, c'est comme quand on avait un travail actif, bien, là, après ça, on appelait le médecin, puis après ça, il commençait à venir faire le suivi. Puis tu sais, mais on est beaucoup plus seul. Fait qu'on a beaucoup d'indépendance comme infirmière aussi dans ces milieux-là. Encore là, moi, j'ai fait plus de l'obstétrique. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est urgence? Puis tout ça, je sais pas vraiment c'est quoi les différences à ce niveau-là. Là. Mais oui, encore là, c'est ça. Moins de personnes sur les étages. On n'a pas vraiment beaucoup de stagiaires non plus. Tu sais, fait que c'est plus tranquille. C'est plus un peu tu t'arranges sur le tas. T'sais, c'est plate à dire, mais comme il n'y a pas de protocole vraiment. Fait que, tu sais, comme toutes les surveillances postpartum, faut que tu les saches. Tu sais, il n'y a pas comme une feuille que tu vas aller cocher. Ah, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Fait que moi, j'ai été un peu formée sur le tas aussi parce que j'avais pas de formation en obstétrique quand je suis arrivée là. J'avais fait un peu de postpartum puis de la PED, mais pas de salle d'accouchement. Fait qu'encore là, ils m'ont formée là-bas du mieux qu'ils ont pu avec les infirmières qui étaient sur l'étage, puis tout ça. Mais tu sais, il n'y a pas de ressources nécessairement disponibles juste pour faire la grosse formation selon un programme, puis tout ça. Tu sais, c'est comme, encore là, tu t'arranges un peu rendu là-bas. Là.
OK.
Moi, j'avais une dernière question. Donc, tu as beaucoup de beaux projets, puis tu vas beaucoup en région, puis on voit que tu travailles fort. Puis autant les professionnels de la santé que médecins, on voit que c'est difficile un peu garder une balance entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, est-ce que tu aurais des trucs pour garder un peu une balance puis rester comme avoir une bonne santé mentale puis tout ça?
Bien, moi, personnellement, c'est vraiment par rapport à mes besoins de base. Fait que, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais juste d'être sûre que je dors assez, que je mange bien puis que je bouge. Des fois, juste ça, c'est difficile comme quand on est en fin de session puis qu'on a beaucoup de travaux à remettre puis que là, en plus, on travaille puis tout ça. Fait que, tu sais, de se garder du temps pour ça. Parce que moi, quand ces besoins-là sont comblés, bien, c'est là que je vais me sentir bien puis que je vais être plus alerte, justement, pour aller apprendre puis pouvoir m'investir dans tous mes projets. Parce que c'est quand que je deviens trop débordée que là, je deviens même plus productive. Mm-hmm. Tu sais, surtout par rapport à ma création de contenu avec ma nouvelle page. C'est un côté que j'aime beaucoup, mais que quand que je me sens pas remplie à ce niveau-là, j'arrive pas à avoir de la créativité. Tu sais, c'est vraiment important que je me ramène à ça puis que, tu sais, je me discipline sur le fait que c'est important que je me couche, mettons, pour avoir au moins 7-8 heures de sommeil, mm-hmm. puis que j'essaie de me planifier un peu des repas à l'avance. Puis moi, c'est surtout bouger, là. C'est important. Quand que ça fait une semaine que j'ai rien fait, bien, j'ai pas la tête à travailler ou à faire des choses. Fait que vraiment me raccrocher à ça, puis de garder ça le plus possible. Des fois, ça va même arriver que, tu sais, je vais étudier peut-être un petit peu moins parce que je me dis de toute façon, je suis pas dans un état d'étudier en ce moment. Ouais. Fait que je suis mieux d'aller me recentrer puis de demander c'est quoi mes besoins, de quoi mon corps a besoin en ce moment. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup à mes clients aussi dans mes suivis. Tu sais, là, je parle beaucoup de santé sexuelle, mais ça tourne aussi juste la gestion de ta vie de base. Tu sais, c'est quoi tes priorités? Qu'est-ce qui te fait sentir bien dans ton corps? Tu sais, comment tu peux arriver à avoir un bon équilibre dans tout ça? Fait que c'est tous des sujets que j'apprends aux autres, fait que j'essaye moi-même d'appliquer. Tu sais, des fois, c'est plus facile à dire aux autres que le faire pour vrai soi-même. Mm-hmm. Mais je pense que c'est vraiment ça, la base, de se ramener aux besoins. Tu sais, je sais pas, la pyramide de Maslow, là, vraiment. La base de la pyramide. Puis après ça, le reste, tout ce qui est plus créativité, travail, puis tout ça, ça va venir une fois que les autres besoins vont être remplis, d'après moi.
Très bien. Merci beaucoup.
Ouais, c'est une bonne réponse.
Ouais, j'aime la comparaison avec la pyramide.
Puis par rapport un peu là, à l'image corporelle, tout ça, comment est-ce que tu travailles ça avec tes clients pour justement avoir une meilleure sexualité? J'imagine aussi là, dans les relations, ça affecte les gens quand ils ont une mauvaise image corporelle. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas travailler avec tes clients?
Oui, bien, de base, des fois aussi, les problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, puis tout ça, on a tendance à mettre ça sur « Ah, ben tu sais, j'aimerais ça perdre du poids » ou « J'aimerais ça gagner du poids » aussi, vraiment au niveau du corps, mais que des fois, ça se passe aussi au niveau de la tête. Tu sais, comme une personne qui se connaît pas bien elle-même, qui se valorise pas vraiment par d'autres choses, justement, que son corps, bien, cette personne-là va avoir de la misère à avoir une meilleure estime d'elle. Fait que, tu sais, d'aller travailler aussi au niveau de tout ça, c'est quoi ton identité, c'est quoi... les valeurs qui sont importantes pour toi, c'est quoi les choses que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te motive. Tu sais, d'aller travailler des fois à ce niveau-là, ben ça vient relativiser un peu le fait que, hey, ben, tu sais, je suis en santé, dans le fond, pourquoi j'obsède autant sur la façon que mon corps ressemble? Tu sais, puis à partir de là, une fois qu'on a une bonne base au niveau plus psychologique, mental, ben là, on peut aller travailler plus sur son image corporelle, mais au final, juste le fait de se développer comme identité, ça peut vraiment venir aider aussi à ce niveau-là, là.
OK. Puis dans le fond, de comme un peu switch out, genre l'image de comme le corps, l'enveloppe, tout ça, puis d'essayer de voir au-delà de ça.
Oui, c'est ça, parce que, tu sais, souvent, on va vraiment venir focusser là-dessus, alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent nous valoriser dans la vie, tu sais. Puis que l'important, je pense, c'est de se sentir bien dans son corps, plus qu'à quoi notre corps ressemble, tu sais.
C'est bien.
Oui. C'est des beaux messages aujourd'hui, quand même.
Oui, vraiment. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer sur plein de sujets.
Est-ce que toi, tu as des conseils pour les médecins ou les étudiants en médecine par rapport à comment ils vont aborder la sexualité ou l'image corporelle, des choses comme ça?
Oui, bien, de voir vraiment la personne dans sa globalité. Tu sais, je parle personnellement, quand j'étais infirmière, tu sais, dans mes évaluations, puis tout ça, j'y allais plus, tu sais, sur les symptômes, sur la maladie, justement. Ah, cette personne-là est HTA, genre, elle est venue pour hypertension, puis là, elle a fait un infarctus, puis tout ça. Mais tu sais, d'aller voir plus loin que ça, tu sais, vraiment aller voir ses sphères de vie, puis de voir la personne dans sa globalité pour son bien-être plutôt que juste par sa maladie, tu sais. Même chose pour les personnes qui ont des maladies chroniques, ils peuvent se sentir en santé quand même s'ils ont une maladie chronique, tu sais. Fait que vraiment, de venir évaluer la personne dans sa globalité, puis d'aller regarder avec elle c'est quoi qui se passe dans sa vie, puis s'il y a des sphères de vie qui vont un petit peu moins bien, s'il y a des sphères de vie qu'elle pourrait miser dessus pour avoir plus de motivation puis d'espoir dans sa condition aussi, là. Fait que, tu sais, je sais pas, vous travaillez dans quel milieu, puis tout ça, je parle plus hôpital, mettons, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut s'appliquer pas mal partout, je pense, de vraiment aller voir la personne dans sa globalité plus que dans sa pathologie,
Oui, c'est bon, ouais.
Puis sinon, ben c'est encore là une bonne communication, autant avec ses collègues qu'avec les autres professionnels autour de nous aussi. Là. Comme on disait, c'est vraiment travailler en équipe qu'on va avoir une meilleure vision, puis qu'on va mieux comprendre, puis donner des meilleurs soins à notre patient. Fait que d'avoir un bon travail d'équipe puis une belle ouverture, je pense que c'est des bonnes qualités aussi à développer.
Oui, définitivement.
Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. On serait rendu aux questions en rafale. Donc, ceux-là, on ne te les a pas envoyés parce que c'est des petites questions pour apprendre à mieux te connaître.
Parfait.
Mais c'est pas des questions très, très difficiles à répondre.
C'est bon. C'est vraiment bon. Juste pour le fun.
Parfait. Ouais. Je suis prête.
On a l'habitude, c'est ça, de terminer nos épisodes avec des petites questions un petit peu hors sujet pour avoir du fun, pour finir avec un peu d'énergie. Fait que, je ne sais pas si tu connais, si tu es familière avec l'application Fruits. application de rencontre Fruits. Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, en gros, c'est une application de rencontre où tu classes ce que tu recherches par rapport à quatre fruits. Fait que le melon d'eau, le raisin, la cerise et la pêche. Fait que, mettons, la cerise, c'est comme pour trouver sa moitié. La pêche, c'est plus un coup d'un soir. Raisin, c'est plus prendre un verre sans se prendre la grappe, comme ils disent sur l'application. Donc, juste pour rencontrer quelqu'un. Puis melon d'eau, c'est quand la récurrence en pépin, je pense. Un truc comme ça. Là. Fait que c'est plus comme Friends with Benefits. Question. Si tu pouvais ajouter un fruit, puis comme quelque chose que les gens pourraient rechercher, ce serait quoi? Je peux donner des idées. Nous, on en a déjà écrit.
Ouais, OK, je vais entendre vos idées avant.
Fait que, mettons, pour t'inspirer, nous, on avait pensé à, mettons, la tomate, parce qu'on ne sait même pas si c'est un fruit ou un légume. Fait que ce serait si je ne sais pas trop ce que je recherche, mettons.
OK, ouais, c'est bon, ça.
C'est un genre d'exemple.
Ouais. Ben, peut-être. Peut-être la tomate aussi, je verrais ça, mettons, comme une personne qui est gênée, genre, d'aller sur les sites de rencontres puis de rencontrer. Fait que là, tu sais, elle dit comme, ah, oh, je suis un peu mal à l'aise, genre, d'être ici, puis je suis un peu mal à l'aise de rencontrer. Fait que là, tu sais, avoir une autre tomate comme, ah, oh, cette personne-là aussi est pas tant bonne dans le dating, genre. Fait que là, tu sais, on dirait que ça met un peu moins de pression, puis...
C'est bon, ouais, ça,
c'est ça même. Bon.
On va le proposer.
On va le proposer, oui. Là, là, là.
OK. L'autre bonne question que j'aime bien, c'est quoi un fun fact sur la sexualité que peu de personnes savent?
Un fun fact?
Moi, j'en ai un.
Ah, t'en as un.
Ben, vas-y.
Ouais, c'est quoi?
Ben là, vous le savez, vous, là? Ben, sûrement que tu le sais aussi, là. Ben, le clitoris, c'est 15 cm de long.
Ah, oh, ouais, OK.
Ah, ouais.
Mais moi, j'ai appris ça, genre, il y a un an, là, ou deux. Ah. Là,
ouais.
On me l'a pas appris dans la vie, là.
Ben, c'est ça, on le voit pas, ça, non plus, là, dans les cours d'anatomie, puis tout ça, là, c'est pas...
Ouais.
Fait que c'est fréquent, là, que les gens le savent pas, là, t'es pas toute seule.
Mon fun fact.
Mais c'est bon.
Si vous le saviez pas, ben maintenant, vous le savez.
Ouais. Moi, j'avais un prof au secondaire qui imprimait des clitoris en 3D, dans une imprimante 3D. Fait que je l'ai su.
C'est mais sinon, hot, ça! Genre, good for c'est him, là. Ouais, genre, c'est bien, là.
Ouais.
Mais sinon... Mais c'est pas tant fun, mais c'est juste le fait que la sexualité, tu sais, ça peut tellement être différent pour chaque personne. Tu sais, pour une personne, ça peut être vraiment la relation sexuelle, mais c'est plus que ça. Tu sais, il y en a qui sont asexuels, mais qui ont quand même une sexualité. Tu sais, c'est comme... Ça varie beaucoup en forme, en façon de l'exprimer, en façon de la vivre, puis ça fait que c'est un mot qui est très vaste, en fait, là, qui couvre plein de choses, puis que c'est pas vraiment juste la relation sexuelle.
C'est une belle fin, c'est un beau message de fin, je pense.
J'aime ça.
Voilà, fait que on te remercie d'être venu aujourd'hui et répondre à toutes nos questions, puis on se retrouve tout le monde pour un prochain épisode de C'est au balado.
Merci.
Bye tout le monde.
Bye bye.